Ciné Qua None, votre émission cinéma par l'association Profil. Merci beaucoup d'être avec nous sur FM+, le 91.0. Plein de belles choses à partager aujourd'hui avec Ariel Demont. Bonjour Ariel.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien.
Ça fait longtemps, j'ai l'impression, mais c'est parce que ça passe...
Juste un mois.
Un mois, mais un mois, c'est déjà trop. Claude.
Oui, ça va, ça fait même un peu plus d'un mois.
Un peu plus d'un mois. On peut tout vous dire, c'est vrai qu'on n'a pas, le Ciné Qua None en direct d'habitude du mardi. Peut-être que vous vouliez nous écouter en direct. Là, c'est pas possible cette fois-ci, donc on a dû enregistrer le vendredi 20 octobre, précisément. Okay. Voilà, donc on vous donne les informations selon comment est-ce qu'elles nous parviennent. Et on vous remercie surtout, en tout cas, d'être là, peu importe le jour et le lieu où vous vous trouvez. Je disais, plein de belles choses à partager dans cette association, dans cette émission par l'association Profil. Quatre films, précisément, Le procès Goldman, Les feuilles mortes, Coup de chance, et La fiancée du poète. Et j'ai envie de dire, sans plus tarder, déjà, un premier générique, mon cher Stéphane, avec un film, je crois, qui s'appelle Le procès Goldman. C'est français, on écoute ça et on en parle juste après. C'est parti.
Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944.
Goldman innocent !
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis.
Révolutionnaire dans l'âme.
Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster ?
Oui.
Et d'assassin ?
Non, certainement pas.
Et pour vous, il est innocent. Vous ne vous posez pas la question.
On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats.
Le procès Goldman, policier, judiciaire, en parle d'un procès, j'ai l'impression, mon cher Claude. Qu'en est-il ?
Alors, ce procès Goldman, donc c'est un film de Cédric Kahn. Alors, il s'agit du deuxième procès de Goldman. C'est une affaire donc Goldman a fait beaucoup de bruit quand même à l'époque. Il y a déjà eu un premier procès en décembre 1974 qui s'est terminé par son accusation. Donc, il a été condamné à la prison à perpétuité. Il avait réalisé 4 hold-up et dans un de ces hold-up, dans une pharmacie, il est accusé d'avoir tué donc la pharmacienne et sa préparatrice, ce qu'il a toujours nié d'ailleurs. Ouais. En novembre 1975, donc presque un an après, la Cour de cassation annule le premier procès et nous revenons donc en avril 1976 pour ce deuxième procès qui fait l'objet de ce film. Alors Goldman, c'était une figure emblématique de la gauche française à l'époque. À son procès, donc, ont assisté notamment Simone Signoret,
Régis Debray
et pas mal d'autres personnalités de gauche. Il a toujours nié, il a reconnu toujours donc les faits de trois de ces hold-up. Il a toujours nié le quatrième où il y avait évidemment du sang qui avait coulé. Alors c'est un film pur et dur pour un film de procès, pour un film d'assises, comme on dit, dans la mesure où, à part quelques petites exceptions, tout se passe dans la salle d'audience du tribunal. Il y a la première scène donc qui nous présente dans le bureau de Maître Kirschmann, qui est son avocat. Qui fait un peu la présentation du film avec son assesseur, Maître Levin. Ensuite, il y a quelques scènes à l'extérieur de la scène d'audience, dans les couloirs et dans une pièce qu'ils appellent la souricière, où le détenu, l'accusé, donc, parlait avec ses avocats entre deux séances, entre deux suspensions. Tout le reste, comme je vous disais, donc, se passe bien dans cette pièce. Donc, c'est un huis clos. C'est un peu aussi... On respecte les prérogatives du théâtre classique avec donc le lieu, le temps et l'action. On est un peu comme au théâtre, ça a quand même quelque chose de théâtral, ces procès. Et on va voir donc pendant pratiquement les deux heures que dure ce film, du début à la fin, comment Goldman va se défendre. Donc on va voir évidemment comment se déroule ce procès comme un procès classique, mais on va voir aussi une opposition, une espèce de présentation en miroir de sa personne de Goldman et de la personne de Maître Kirschmann qui était son avocat. Parce qu'au début, Goldman donc réfute son avocat. Puis finalement, c'est lui qui va le représenter. Mais ce qui est intéressant justement dans cette opposition, c'est qu'ils ont quand même à la fois beaucoup de points communs et beaucoup qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux juifs polonais, enfin avec des familles d'origine polonaise. Tous les deux sont éloquents, cultivés. L'un est avocat, l'autre est écrivain. Après, il y en a un qui est intégré dans la société, c'est Kijman, évidemment. L'autre, c'est le paria, c'est le révolté, c'est Goldman. Et on pourrait continuer comme ça. Il y en a un qui a fait c'est Kijman qui a fait une énorme carrière d'avocat, qui a été ministre par la suite, qui a défendu tout un tas de monde, dont Mitterrand, la femme de Sarkozy, Cecilia, un tas de gens du milieu du cinéma, et du showbiz d'ailleurs. Par contre, du côté de Goldman, c'est plutôt le révolutionnaire. Il a toujours un peu couru après l'argent aussi. Et donc, son grand fait de gloire, ça a été ce souvenir obscur d'un juif polonais né en France, donc qui est un livre remarquable, qui a été, à l'époque, et encore maintenant, donc avec la sortie de ce film, un succès de librairie.
Oui, qui est sorti, enfin qu'il a écrit entre les deux. C'est le livre qu'il a écrit entre les deux procès.
Donc, entre les deux. En prison. Entre les deux procès.
Alors là, oui, le choc entre les deux avocats dans la première scène dont tu parlais, c'est le seul moment où il y a un extérieur et où il y a on suit le jeune avocat Lévy, c'est ça, je crois.
Oui, Lévy.
Qui va rejoindre
Maître Chouraki dans le film.
Ah, d'accord. Qui va rejoindre Kelman dans son bureau. Et on le suit, panoramique. Et ensuite, effectivement, toutes les autres scènes sont filmées en plan fixe ou avec des avancées vers les visages des personnes qui témoignent. Et moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'entrée dans la salle d'audience, hein, après cette première scène, où il y a une nuée de paparazzi, et on se croirait vraiment sur une scène de théâtre. Enfin, on se croirait vraiment à l'affût d'une star, et tout le monde est là à demander des photos, comme au Festival de Cannes, quoi. C'est incroyable. Et donc là, c'est vraiment la médiatisation à outrance, qui montre bien l'ambiance de ce deuxième procès.
Alors, je rebondis sur le mot ambiance. Il y a aussi dans la salle les supporters de Goldman. Donc ça peut, pour en revenir à un terme de théâtre, il a fait venir sa claque, comme on dit.
Je ne sais pas s'il a fait venir, hein. En tout cas, ils se sont mobilisés.
Je pense qu'il n'a pas dû les forcer de toute façon. Ils sont venus tout seuls, je pense.
Oui, 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 oui. Ben, c'est le succès du livre, en fait, hein, et la médiatisation.
Et la personnalité de Goldman. Donc...
Et ce qu'on en disait dans les milieux intellectuels, grâce justement aux gens du cinéma, de la littérature, etc., de gauche.
Voilà. Ce qu'il y a aussi dans ce film, et ce qu'on voit rarement, comme je vous disais, c'est l'unité de lieu. Alors, il n'y a pas de flashback, à part les deux ou trois sorties dont on vient de parler, tout se passe évidemment dans cette salle. Il n'y a pas de musique du tout dans le film. Et ce qui est remarquable aussi, c'est les couleurs. À un moment, je me suis demandé, après l'avoir vu une semaine ou 10 jours après, je me suis demandé, mais il est en couleur ou en noir et blanc? Et effectivement, il n'y a que des couleurs, leur terne.
Pastel,
oui. Oui, pastel, mais très plutôt sombre. Je veux dire, même le rouge des présidents et de ses assesseurs, ouais. Il est très terne. Enfin, les habits sont sombres. Goldman est habillé en noir, et pas mal. Les avocats évidemment aussi. Enfin, tout est terne. Et il employait aussi un format, le format classique, donc 4:3, le format des films du début du cinéma, quoi.
Le format aussi, pour resserrer, oui, qui est carré. Enfin, on a vraiment le cadre de la salle. Qui est carré, et c'est un peu comme enfin, on dirait quelquefois des émissions radio-télévisées de l'époque.
Oui, hein, ça fait passer ce qu'on peut voir encore sur les films de Lina.
Oui,
voilà,
c'est archives, ce qu'on voyait.
À une époque, il y avait une émission à la télé, qui, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait des représentations aussi de jugement, des choses comme ça, effectivement, ça y fait penser. Enfin, pour ceux qui ont connu ça, évidemment.
Mais il y a vraiment un suspense. Enfin, moi, c'est ce qui tient, parce que effectivement, c'est un film, c'est dans la durée. Je crois qu'il a gardé le tournage dans le sens du procès. Hein,
voilà, le tournage a été fait
avec
dans la chronologie.
Voilà. Et dans un endroit, enfin, qu'il a reconstitué ce tribunal, et c'est les spectateurs. Sont là du début à la fin.
Voilà, il a tenu. Voilà,
il y a une tension sans arrêt, et on a vraiment l'impression d'être maintenu dans. C'est pas un suspense, mais c'est une tension. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le sentiment d'assister à ce procès.
Du film, c'est qu'il a vraiment recréé l'ambiance d'un procès. Donc, comme on disait, il a filmé dans la chronologie. Toutes les scènes, même quand on ne les voit pas, il y avait les figurants qui faisaient le public ou la claque dont je viens de parler. Oui. Donc tout ça donnait une ambiance spéciale à ce film. Vraiment, on se sent, on est concerné. Des fois, il y a des plans, des gens qui viennent témoigner à la barre, ou la caméra, donc, part derrière un crâne, comme dans la première partie
de Jean Contrechamp. On a des...
Voilà.
Oui. Comme si on était derrière, gêné par la personne de devant.
Et on est vraiment comme un juré par moment.
Ouais. Oui, et il n'y a pas de musique du tout. Hein. Je sais pas,
du tout.
La bande-annonce, on entend une petite musique, mais moi, j'ai entendu aucune.
C'est au début du film, mais après, c'est fini.
Peut-être.
Après, c'est fini.
Ouais,
donc, il y en a tellement peu qu'on l'avait oublié.
En tout cas, c'est point de vue cinématographique, c'est très, très intéressant, hein, outre le côté historique, sociologique, politique, etc. Et actualisant aussi les problèmes de société tels que le racisme, la violence policière, etc. Et bon, hein, qui est toujours présente en France. Mais je trouve que c'est vraiment un travail où, comme on dit, la présence des figurants est très importante. Et pour une fois, ils ont toutes leurs valeurs et tout leur potentiel. Et ça, c'est quand même une grande réussite. Hein.
Je vois que je terminerai en disant les noms des acteurs quand même. Donc c'est Harriet Vortaler qui joue Goldman, Arthur Harari qui joue Maître Kijman, Nicolas Briançon, Maître Garot, Jérémy Lewin, Maître Chouraki, l'assesseur de Kijman, et il y a Jerry Radziwiłłowicz qui joue le père de Goldman. C'est un cinéaste, un acteur polonais très connu qui a tourné dans beaucoup de films de Wajda notamment.
Et le rôle du père est bouleversant.
Il joue le père de Goldman et il a choisi, Cédric Kahn l'a choisi parce qu'il parlait français. Voilà.
Ouais. Ah, oui.
Hommage aux acteurs et aux figurants, c'est important de les citer également. Ils ont un rôle très important dans ce film, donc dans ce procès théâtral au cinéma, vous disiez. Mes chers auditeurs, chers auditrices, vous pourrez vous lancer à la recherche de la musique dans ce film. Si vous en entendez, vous nous faites signe. Au début, a priori, ça vient, et puis plus tard, il n'y en a pas beaucoup dans ce film à la recherche de la vérité. Après avoir cherché la vérité, peut-être aller chercher le bonheur avec ce second film qui arrive. Je crois que ça s'appelle Les Feuilles Mortes, c'est finlandais cette fois-ci. On parle de drame, de comédie, romance, on écoute la bande-annonce et on en parle juste après.
Lähdetään.
Presidentti arvioi, ettei kyseessä ollut vahinko.
Mihin? Karaokeen. On perjantai.
Asentaa.
Minkä?
Kun juon niin paljon.
Miksi sitten juot?
Kun masentaa.
Anna numero.
En tiedä edes nimeäsi.
Kerron ensi kerralla.
Miksi et kysy numerotiedustelusta?
En tiedä nimeä.
Les Feuilles Mortes, ce film finlandais par Aki Kaurismäki avec un certain Alma Pöysti et Jussi Vatanen. J'ai un peu bégayé sur la fin, pardon, pour la prononciation du prénom.
Oui, ben merci d'avoir dit les noms des acteurs. Ça m'évitera de les dire.
Ça, c'est fait. De quoi ça parle alors, ça ?
Donc, Coris Maki, on le connaît bien, enfin, en tout cas, à profil, on l'a souvent regardé de près, étudié. Il a 66 ans et il est le frère de Mika Coris Maki, avec qui il a commencé la collaboration pour faire des films. Il avait commencé en 81 avec un film qui s'appelle Ariel. En 88, La fille aux allumettes. Moi, je l'ai découvert surtout à profil en 1996 avec Au loin s'en vont les nuages. Puis en 2001, L'homme sans passé, qui a eu un prix du jury œcuménique et le grand prix du jury à Cannes aussi en 2001. Ça a été un choc. Vraiment, c'est un film où la dureté côtoie la bonté. Et puis en 2006, il a fait Les Lumières du Faubourg. Alors là, c'était le pessimisme total. Et en 2011, Le Havre, où là, la solidarité l'emportait. C'était un Coris Maki français. On en a aussi beaucoup parlé. Ce dernier est teinté d'un amour mélancolique. Ce dernier, donc Les Feuilles Mortes, était teinté d'un amour mélancolique, comme le titre de la chanson, Les Feuilles Mortes, et le texte de Prévert, avec la musique de Cosma. Donc l'histoire, c'est la rencontre d'un homme, Olapa, ouvrier et un brin alcoolique, et d'une femme, Ansa, employée dans un supermarché. Un soir à Helsinki, au cours d'un karaoké dans un bar triste, comme toujours dans les films de Coris Maki, il y a des endroits tristes.
Il y a des passages obligés, on va dire.
Donc les bars, les villes. Et après une ébauche de drague maladroite, ils se séparent en gâchant leur chance de se retrouver. Mais c'est une histoire d'amour, où le hasard a une grande part à jouer, malgré les mauvais tours du destin. La précarité du travail, le manque de confiance en soi, la sinistrose politique internationale avec des échos de guerre à la radio. Tout ce désespoir est contrecarré, court-circuité par ce besoin d'amour. Donc dans l'histoire, l'homme a un ami, la femme, elle, recueille un chien. Ce sont des soutiens précieux dans leur solitude. Et puis le hasard fait le reste, au détour d'une salle de cinéma où on voit des affiches comme celle de Brève Rencontre, par exemple.
Il y en a pas mal,
oui. Donc il y a beaucoup de, oui, beaucoup de petits clins d'œil au cinéma.
C'est un film inattendu parce qu'il y a quelques années, je crois que c'est en 2017, Coris Maki avait dit que ça y est, il avait fait son dernier film, il s'arrêtait. Et puis là, tout d'un coup, il y a ce film qui surgit, où on retrouve effectivement un peu tout c'est du Coris Maki, même en fermant les yeux, si je puis dire, on l'entend, on le reconnaît.
C'est surtout en ouvrant les yeux, en voyant les couleurs, il y a toujours...
Oui, il y a toujours ces couleurs vives,
voilà, une gamme chromatique.
Ils sont habillés comme des années 50 et encore avec des vêtements en solde. Enfin, ils ont des têtes pas possibles aussi. C'est à se demander, heureusement, qu'on voit des films finlandais ou des séries finlandaises à peu près normales. Sinon, on se dirait, mais comment sont ces gens là-bas ?
Ils sont tous comme ça.
Est-ce que c'est le froid qui les a transformés comme ça ? Alors effectivement, il y a toujours ces exclus, ces gens qui ont une vie précaire, qui sont solitaires, ces endroits pas possibles déshumanisés, l'usine, les supermarchés, une ambiance glauque ou poisseuse. Et il y a beaucoup de chansons, les trois quarts, elles sont d'ailleurs en finnois. Mais alors il y en a qu'on connaît. Moi j'ai reconnu une chanson que chantait Eddie Mitchell qui s'appelait La pluie du petit matin.
Oui, c'est du rock finnois.
C'est du rock. Alors tout ça c'est américain au départ. Il y a aussi dans ce film, donc il y a un humour caustique qui est plutôt couleur noire quand même aussi, qui est quand même la marque, une des marques de Coris Maki. Et dans ces films, tu en citais, il y a aussi, moi j'ai repéré, il y a Brève Rencontre, Le Mépris,
les Rocco, affiches, oui.
Rocco et ses frères, qu'est-ce que j'ai toujours, le journal d'un curé de campagne, Il faut dire que bon, c'est parmi ces modèles ou ces inspirateurs, il y a Bresson, il y a Godard notamment. Et c'est vrai que de temps en temps, on y fait penser parce que lui, il fait référence. Parce que sinon, moi, j'ai du mal quand même à retrouver du Godard et du Bresson dans ces films.
Alors, il dit que ce sont ses divinités, Bresson, Godard, Ozu et Chaplin. Donc c'est son inspiration. Ça ne veut pas dire qu'il fait la même chose, hein, mais je pense que, enfin, en tout cas pour Chaplin quand même, on peut peut-être voir des correspondances. Quoique moi je verrais plutôt Buster Keaton, parce que c'est vraiment des clowns tristes.
Il y en a une énorme, c'est la fin.
Oui, bien sûr, la fin,
voilà, ces personnages qui s'en vont, on n'en dira pas plus, qui semble une copie conforme modernisée d'un film de Chaplin.
Oui, oui, oui. Mais on reconnaît toujours. Bon,
il y a les deux personnages et le chien. Il y a la démarche un peu.
Ouais.
C'est pas Charlot, mais un peu, on fait y passer. Et puis il y a la façon dont c'est filmé aussi, ces gens qui ont un plan fixe avec ces gens qui s'éloignent dans une allée.
C'est vraiment sous le sens de l'hommage. Enfin, parce qu'il est tellement particulier qu'on ne peut pas dire il veut faire du Chaplin ou autre. Quoi. C'est vraiment en hommage.
C'est un hommage, oui.
Avec sa propre relecture, à lui, avec son style très reconnaissable, ce réalisme un peu figé. Hein, c'est toujours des tableaux ironiques, mais enfin, peints plus ou moins avec tendresse. Bon, sauf pour les villes.
On a la sympathie pour ces personnages. On a beaucoup d'empathie pour eux.
Alors, en tout cas, dans celui-là, oui. C'est pour ça que je dis que, pour ceux qui aiment le style Koizumaki, parce qu'il y a vraiment un style particulier.
C'est très particulier, même.
Pour moi, ce sera le plus réussi de sa filmographie. Et pour les autres, c'est une belle histoire d'amour, un film qui fait du bien, car il introduit un brin d'optimisme au centre d'une vie morose dans la société capitaliste, avec ces rumeurs de guerre qu'on entend à la radio,
oui,
et qui font nettement référence à l'actualité.
C'est un peu surprenant, c'est la première fois que je pense. Enfin, moi, j'en ai vu quand même quelques-uns de ces films, c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses.
Oui, parce que souvent, ils ne sont pas datés. Enfin, voilà, on ne peut pas les dater. On dirait que c'est des années 50.
Il y a plusieurs, c'est par la radio, il y a plusieurs fois dans le film, justement, c'est cette intervention.
C'est l'Ukraine.
On entend ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Sans que ça ait une conséquence, d'ailleurs, sur l'histoire du film ou le comportement des personnages. C'est juste de l'information.
Oui, oui, c'est ça. On dirait qu'il
c'est pour le spectateur.
Ils écoutent pas, mais voilà. Non, ils l'écoutent pas, mais ils l'entendent. Ça participe à la situation morose. Mais eux, ils vivent une autre histoire à l'intérieur de ce monde. Donc c'est toujours au service de l'humanité.
Puis il y a aussi cette poésie qui est quand même très particulière chez Koizumaki, qui fait penser au film d'un film un peu d'avant-guerre qu'on trouve chez Renoir, par exemple. C'est une espèce de poésie réaliste.
C'est vrai qu'il aime bien la musique quand même.
Il y a beaucoup. Alors, autant le film dont on vient de parler, il n'y en a pas du tout. Autant là, il y a sans arrêt, il y a pratiquement de la musique.
Oui, ça rythme la vie.
Ça marque le film.
Magnifique. Et vous irez voir, vous nous direz ce que vous en pensez, chers auditeurs, chères auditrices, Les Feuilles Mortes d'Aki Koizumaki, donc sorti en 2023. C'est un film finlandais. On entend donc l'actualité ukrainienne, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Oui.
En fond, dans la radio qui passe comme ça. Donc de l'actualité justement intégrée, sans en faire trop. Et c'est
voilà.
Tout à l'heure, on va parler de la fiancée du poète et également de Coup de chance, mais je pense qu'il est temps de se faire une petite pause musicale avec un choix, je crois, de toi, Claude.
Que je vous laisse découvrir.
On découvre et on en parle un petit peu après. A tout de suite sur FM+.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. quel est de préféré Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'efface de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de
Monsieur Gainsbourg, à l'honneur sur FM+. Quel titre incroyable, merci beaucoup pour ça, Claude Bonnet. C'est toujours l'émission Ciné Conone par l'association Profil. Merci beaucoup d'être avec nous, Ariel Demont, Claude Bonnet, Stéphane à la technique pour nous accompagner. Et donc je disais Gainsbourg, Claude.
Alors, cette chanson de Gainsbourg.
Bah ouais.
Cette chanson donc date d'un album de 1961, donc c'est déjà un peu ancien. Cette chanson s'inspire évidemment de la chanson Les feuilles mortes de Prévert et Cosma, que Montand chantait dans le film de Carnet de 1946, Les portes de la nuit. Gainsbourg a continué sa carrière éclectique, hein. Les feuilles mortes sont la chanson de Prévert est quand même loin dans sa discographie, j'allais dire sa filmographie. Et par contre, la chanson de Prévert et Cosma, Les feuilles mortes, c'est une chanson qui a fait le tour du monde, je sais pas combien de fois, donc qui a énormément été chantée. Non seulement par Montand, mais par un tas de Français, de Françaises surtout. J'avais noté, moi, Edith Piaf, Jules Gréco, même Françoise Hardy s'y était mis. Ouais. Et à l'international, donc, il y a aussi également beaucoup de chanteurs.
Et alors en finnois, qui c'est qui le chante?
En chinois, je n'ai pas noté.
En finnois, pas en chinois.
Ah, en finnois, je ne sais pas.
Moi non plus.
Non, mais il y a certainement un chinois qui l'a chanté quelque part.
En Chine, certainement.
Non, mais ses interprètes les plus connus, c'est Sinatra et Nat King Cole quand même.
Ouais. Voilà. Un vrai succès.
Pratiquement tous les chroneurs américains l'ont reprise.
C'était un coup de chance?
Comment?
C'était un coup de chance, ce succès?
Un coup de chance.
Je ne sais pas, ça a dû quand même générer d'énormes droits d'auteur.
C'est surtout une musique de qualité, j'ai l'impression. C'est pour ça, c'est bien écrit. Merci en tout cas pour cette belle référence, mon cher Claude. On va continuer dans cette émission avec une nouvelle bonne annonce. Cette fois-ci, c'est Coup de chance qu'on écoute. Et on en parle juste après. Toi, FM+. Coup de chance.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage. Parce qu'un mariage réussi, ça se travaille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience.
Fanny? Fanny Moreau?
croisé un type que j'avais pas revu depuis le lycée.
Genre, Noël Impact, tu m'as reconnu.
Je t'aurais reconnu n'importe où, j'étais fou de toi à l'époque. Merci. C'est incroyable, j'ai tombé sur toi.
Je me demande, s'il m'avait dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais peut-être une vie très différente.
Pourquoi? T'as envie d'avoir une vie différente?
Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas pourquoi je t'appelle.
Peut-être avec qui? Coup de chance. Woody Allen, qu'on entend sur FM+. Royaume-Uni, hein? Royaume-Uni?
Alors, c'est un film français. C'est
une comédie romantique.
Tourné en France avec des acteurs français. C'est une première.
Je me disais aussi.
Pour Woody Allen, qui avait quand même, il y a quelques années, avec son film Minuit à Paris, tourné en France, mais c'était en anglais avec des acteurs américains. Donc, c'est une première. Alors, on peut se demander pourquoi, mais ça me paraît évident. Hein, il ne peut pas tourner aux États-Unis parce qu'il est blacklisté, comme on dit. Il a trouvé des fonds pour faire ce film. Et donc il a fait en France. Alors c'est une histoire d'adultère, on va dire assez classique. C'est un couple un peu glamour qui est interprété par Melville Poupeau et Lou Delage, qui a un très bel appartement, une très belle
situation.
Oui. Donc il doit gagner beaucoup d'argent, un très bon métier. Donc tout se passe très bien jusqu'au jour où, c'est le début du film, Fanny, donc Lou Delage, rencontre Alain Nils Schneider, qui était un copain de lycée. Et on comprend très vite donc ils sont restés copains, mais il était très amoureux d'elle. Et ce qui devait se passer se passa, c'est-à-dire qu'ils sont devenus amants. Et toute l'histoire donc, de ce film, c'est comment ça va se passer avec le mari. Mmh. Voilà. Donc, on est dans une ambiance un peu Chabrol, on va dire. C'est pas, à mon avis, c'est pas un des meilleurs films, loin de là, de Woody Allen, mais c'est quand même quand c'est pas très bon, c'est quand même de Woody Allen. Et pour les fans de Woody Allen, je vois la tête d'Ariel, mais c'est quand même un film qu'il faut voir. Voilà.
Moi, je ne suis pas fan, ça c'est certain. Enfin, si, j'étais fan jusqu'à Match Point, 2005.
Ben, c'est le film un peu en miroir de celui-là.
Match oui, Point, voilà. Mais bon, ça, y a peu la comparaison est quand même
En faveur
assez
de Match Point. Voilà.
Possible.
Mais quand même, mais touché mais pas coulé.
Non, moi, à part Annie Hall, Manhattan, en 79, La Rose pourpre du Caire, peut-être Anna et ses sœurs aussi, mais bon, après, j'ai un peu décroché. Puis alors, celui-là, en français, c'est vrai qu'il y a quand même un petit point négatif, hein, c'est qu'il n'y a même plus la verve new-yorkaise, le débit un peu saccadé,
c'est-à-dire qu'au début, rapide, on se dit tiens, ça parle pas anglais.
Ben oui, mais c'était malheureusement, c'était quand même un des plaisirs d'entendre ce débit si rapide. Enfin, c'est typique quoi de Woody Allen. Et là, bon, c'est en français, donc des fois, ça tombe un petit peu à plat. Enfin, ça enlève un peu de charme au dialogue. Et puis, c'est vrai que bon, le triangle amoureux, Chabrol, je ne sais pas, hein. Chabrol, on a une petite pointe d'inquiétude dans le ventre, qui nous tient. Ouais. Là, c'est un vaudeville, c'est un peu ennuyeux. Hein. Bon, le détective privé, le mari, c'est vrai, Melville Poupeau, c'est un bon acteur, mais là, je ne sais pas, on dirait qu'il joue faux exprès.
Oui,
hein.
Oui.
Il y a un débit. Bon, on lui a peut-être demandé de jouer comme ça, puis c'est vrai que son côté un peu psychopathe et monstre enfantin avec son jeu de train électrique, c'est bon. C'est peut-être un effet de distanciation ironique que j'ai pas trop saisi. Mais par contre, j'ai cru que tout allait changer à l'intervention de la belle-mère.
C'est le grand point positif de ce film.
Voilà.
C'est Valérie Le Mercier qui joue donc la mère de Lou Delage. C'est vrai que par rapport à ce qui se passait avant et par rapport à ce qui se passe après, c'est mieux quand elle est là quand même.
Ah ben oui. Ah oui, j'ai cru que ça allait vraiment remonter. Et puis c'est un personnage, enfin c'est le personnage le plus intéressant.
Oui.
Bon, déjà.
Ça tient à ça aussi. C'est
elle, vrai. Ouais, elle est. Le personnage est un peu parano, mais finaude en même temps. Enfin, il y a quelque chose à chercher, quoi. Hein. En plus, elle est totalement dans le rôle d'une sincérité comique désarmante. Voilà, j'ai failli y marcher. Mais enfin bon, après les. Les virages du récit ont continué à me dérouter jusqu'à la fin. Enfin, c'était un peu confus. Je ne me suis pas réconciliée avec le maître.
Non, mais je pense que ce n'est pas un film qui va attirer les gens qui ne connaissent pas Woody Allen pour aller voir le suivant. S'il y en a un, parce qu'aussi on se pose la question, c'est peut-être son dernier film.
Combien il en a fait ?
C'est le 50e.
50.
Ah oui, donc. Et il a 87 ans. Donc, je ne vais pas dire qu'il va mourir demain, mais bon.
Il pourrait profiter.
Il a quand même beaucoup donné.
De sa situation.
Mais dans les interviews qu'il a données pour ce film, lui, il ne veut pas s'arrêter. Hein. Il raconte qu'il a encore 5 ou 6 scénarios sous le coude, qu'il a son agent ou ses agents qui cherchent des financements. Donc, dès qu'il a un truc, j'ai l'impression qu'il lui plaît à peu près, et surtout qu'il sait que l'argent est à la banque, comme disait Orson Welles à l'époque,
ouais.
Je pense qu'il va faire un film, hein, parce qu'il ne se sent pas... Il a toujours la foi, il n'est pas malade, il est un peu âgé, c'est tout.
Oui, ça fait un peu œuvre alimentaire, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas,
s'il, s'il a besoin de tant besoin que ça.
Bah, bon. Non, c'est pour ça. Je pense
mais c'est
ça,
vrai hein. qu'on se dit quand même en voyant ce film que avec un autre réalisateur, ça aurait été certainement mieux parce que il y a quand même un scénario donc qui tient la route. On en a vu des tonnes de films comme ça, des films d'adultère. Il y a de très bons acteurs. Hein, Lou Delage. On la connaît pas très bien, mais c'est une actrice qui commence à percer.
Ah oui, elle est très bien.
Mais lui, pour n'en parlons pas. Neil Schneider, c'est le séducteur français à la mode actuellement. Valérie Mercier, on vient d'en parler. Après, il y a des petits rôles. Hein. Elsa Zilberstein, Guilleton Kedek, Grégory Gadebois, qui est très rigolo quand même dans son rôle de détective. On se dit que c'est dommage que ce film est un peu loupé, quoi.
Bah, c'est même au niveau de la technique, je sais pas, il y a une utilisation d'une lumière dorée sur pratiquement toutes les scènes, oui. Hein, ça m'a gêné parce que c'est comme si la richesse des protagonistes n'était pas suffisante pour nous éblouir, il fallait encore en rajouter. Bon, la seule phrase qui m'est venue à l'esprit en sortant du film, c'est What the point,
ouais.
En anglais, s'il vous plaît. Ce qui veut dire à quoi ça sert.
Ouais.
Merci, belle maman.
Voilà.
On dit pas ça souvent.
Pour les fans, voilà. Pour les fans de Woody Allen.
Oui. Je me demande justement la vie entre des personnes très fans de Woody Allen. Est-ce qu'il y a un peu de déception de dire bon, ben on n'a pas réussi encore, ou alors. Parce que en tant que non fan de Woody Allen, on dit bon, ça va, ça reste assez accrocheur.
Mais on peut toujours attendre le prochain si on y trouve un certain réconfort. Enfin voilà, ça passe, ça peut passer, ça peut faire passer une heure et demie sans trop se poser d'autres questions, quoi.
Ouais.
Un dimanche de pluie en hiver.
Exactement. Ça fera un bon DVD alors.
Ouais.
Woody Allen, on te passe le message. On attend le prochain. Merci pour ça, c'était coup de chance, donc pas de coup de chance pour Woody Allen a priori, mais la prochaine sera la bonne sans aucun doute. On continue sur notre émission Cinéquanon avec une nouvelle bonne annonce, cette fois-ci c'est La fiancée du poète, un titre très intriguant, mais de quoi ça parle, on en parle après.
Bonjour. Je viens de la part du père Benoît, il m'a dit vous louer des chambres.
Distance en haut, cash and before.
C'est bien ici alors. J'ai eu peur de me tromper d'adresse.
Combien qu'il en faut ?
Une cartouche ? C'est possible ?
Ça marche la clope, hein ?
Ça permet d'arrondir.
Vous avez pas entendu des voix ?
J'ai vu un cow-boy.
Un cow-boy ?
Qui me regardait.
Wow !
Wow !
I'm Elvis, king of rock and roll.
Vous allez rire, moi j'ai un cerf. Il est pas en marbre, il est en ciment, mais il a une âme.
Je vais prendre la même chose, s'il vous plaît.
C'est vrai que t'as fait de la prison?
C'est vrai. T'as vu où t'en es?
Boniche. Avec une licence de lettres en poche.
Toi, t'aimais Jack London, Steinbeck, Rimbaud?
J'ai croisé dans le jardin un ami à toi qui aimerait bien te voir.
Mais c'est pas André Pierre, ton poète?
Elle nous a dit qu'il était mort.
Mais il est pas mort, puisque c'est moi.
La comédie française, La fiancée du poète, c'était la bande-annonce qu'on écoutait à l'instant sur FM+, dans notre émission Sine Qua Non, de, par et avec Yolande Moreau, il faut le préciser.
Oui, Yolande Moreau, réalisatrice. Et enfin, parce qu'on avait beaucoup aimé son premier film, Quand la mer monte, c'était en 2004, elle avait eu un César de la première œuvre. Celui qu'elle a sorti en 2013, je ne m'en souviens pas, je ne sais pas si je l'ai vu. Mais celui-ci, donc c'est son troisième, la fiancée du poète. Et c'est toujours des comédies qui ne sont pas des comédies. Elle vient du théâtre, bien sûr, la troupe de Jérôme Deschamps, inoubliable dans Les Deschiens, de 1993 à 2002 à la télévision. Elle dit qu'elle a beaucoup aimé dans sa jeunesse Zouk, c'était une belge aussi.
Humoriste belge.
Humoriste qui était...
Suisse, je crois qu'elle était.
Ou Suisse, peut-être. Oui, Suisse. Avec un accent terrible. Inoubliable, quand on l'a vu une fois, on s'en souvient. Puis surtout, c'était...
Elle avait un physique, un accent très particulier.
Oui, et
c'était drôle.
Et c'était très différent par rapport à tout ce qu'on voyait à l'époque, bien quadrillé dans les années 90. Donc elle a longtemps été cataloguée comme actrice de comédie. Elle a joué dans Le Bonheur et dans le Pré, dans Amélie Poulain. Mais elle a eu son premier grand rôle d'actrice dans Séraphine en 2008. Elle a eu le César. Et puis Louise Michel, enfin on a vu qu'elle était capable de jouer d'autres choses. Et là, elle revient enfin dans un registre semi-comique, semi-dramatique, tout en nuances. C'est vraiment ce qui la caractérise. C'est l'histoire de Mireille, donc, qui revient après une longue absence, on ne sait pas tout de suite pourquoi, mais on le comprend vite, dans la vieille maison vide et délabrée de son enfance, sur les bords de la Meuse. Et on suit au début le processus du retour, le paysage, le village, on prend le temps, la rencontre avec son vieux prêtre et ses deux petits caniches, joués par un William Scheller étonnant dans son premier rôle au cinéma.
William Scheller.
Oui.
Tiens donc.
On connaissait le chanteur, on ne connaissait pas l'acteur, et pour cause.
Et c'est par amitié, en fait, parce qu'ils sont devenus amis, et elle lui a demandé, il a accepté, et il est assez exceptionnel et assez drôle. Donc c'est aussi les retrouvailles avec la maison, le jardin et le grand cerf en ciment, dont on entend dans la bande-annonce, qui est un peu l'image tutélaire du passé et de son esprit un peu vagabond. Donc pour entretenir cette maison, elle va prendre des locataires, un jardinier, un étudiant et un musicien qui se fait appeler Elvis, mais qui ont tous quelque chose à cacher, comme Mireille d'ailleurs. Donc trafic, fausse identité, changement de genre, faussaire d'art... Ouais. Enfin, c'est une bande de doudingues qui se sont trouvés dans une nouvelle vie où brille un peu de folie. Leur leitmotiv, c'est « on a besoin du mensonge pour rêver ». Et donc, le quatrième homme arrive, lui, tout droit du passé, et il est maître dans le domaine de le quelque chose à cacher. Et c'est lui qui donne un peu le fil rouge, le thème de l'histoire, la motivation sentimentale qui habite le personnage de Mireille depuis le début. C'est à travers Mireille, c'est bien Yolande Moreau qu'on reconnaît et c'est un petit bonheur dont il ne faut pas se passer. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, ce que j'ai ressenti en voyant ce film, c'est le plaisir qu'elle a eu à le faire, et le plaisir des comédiens et de toute cette petite troupe qu'a eu à le tourner. Celui qui arrive notamment, donc c'est Fernando, c'est Sergi Lopez, qui est plus vrai que nature, pratiquement.
Qui est donc le poète.
Ouais, c'est lui le poète. Il faut mettre des guillemets quand même.
Oui.
Parce qu'il y a une petite...
Il y a toujours le faux et le vrai. Donc
oui, voilà, c'est ça.
On privilégie le faux.
Voilà. Il y a Grégory Gadebois, donc, qui joue Bernard, qui est jardinier, mais qui a une autre vie...
Nocturne.
Voilà. Il y a Esteban qui joue Elvis, le faux cowboy. Il est turc, hein. Voilà, je l'ai dit.
Clandestin.
Oui, voilà. Voilà, tout ça, c'est...
Et le jeune,
Ah oui, il y a le jeune, donc Cyril.
Le jeune étudiant en art.
Interprété par Thomas Guy, qui lui...
Surnommé Picasso.
Oui, surnommé Picasso, et on comprend pourquoi, parce qu'il est très doué pour la peinture, surtout pour faire celle des autres, voilà. Donc voilà, tout ça, c'était cette ambiance un peu foutraque, c'est très original, et je ne dirais pas qu'on rit grassement, mais enfin, on se marre tout le temps, quoi, du début à la fin, parce qu'il y a toujours quelque chose... Pratiquement chaque séance, il se passe quelque chose de drôle, d'inattendu, et avec ces personnages un peu bohèmes, un peu burlesques, mais c'est plein de tendresse et d'humanité, c'est ça qui est bien, c'est ce qu'on retrouve aussi pratiquement dans tous les rôles de Yolande Moreau. Voilà, c'est un film très, 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 très agréable. Je pense qu'il y aura un succès bouche à bouche, parce que ce n'est pas un gros budget. Mais voilà, quand on sort, on est heureux.
Oui, mais on voit bien que le casting, c'est aussi elle, quoi. C'est aussi Yolande Moreau. Bon, elle arrive même à placer un petit moment François Morel dans le personnage de son bof.
Oui, parce qu'il y a quand même deux personnages désagréables. Hein. C'est sa sœur et son mari.
Sa sœur, voilà. Ouais. La sœur de Mireille, qui est vraiment coincée, elle, par rapport à Mireille.
Les confrontations sont quand même assez amusantes aussi.
Mais c'est ça, il y a de l'humour dans les situations, dans les dialogues, de la sensibilité, dans les émotions. Puis la poésie, dans le traitement de l'image, par exemple, on voit les paysages... les décors, les mouvements de caméra qui caressent l'eau. Il y a les pas mesurés de Mireille, on la suit petit à petit. La brume, il y a une magnifique scène de cortège qui marche parallèlement à la Meuse,
oui.
Où on voit le cortège et sur l'eau, les canards qui suivent. Enfin, il y a des choses comme ça, c'est des purs moments de poésie. On dirait que c'est presque naturel, en fait, que c'était même pas prévu, quoi, tellement ça tombe bien.
Elle met en valeur cette nature des Ardennes qu'on connaît pas très bien finalement, effectivement, avec ses forêts, ses paysages. Enfin, tout ça mélangé, donc ça fait un film très, très jouissif, je trouvais.
Et là, il y a aussi de la musique. Il y a une belle scène de fête, ouais. Avec une musique folk, pop, tzigane. Et là aussi, elle fait appel à ceux qu'elle aime. Hein. Elle est allée chercher un groupe qui s'appelle La Rue Quétanou. C'est la musique de rue, un peu la musique de cirque, mais avec le côté un peu tzigane, oui. Les têtes raides, et ça donne aussi toute cette ambiance très particulière de cette société un petit peu en marge, mais qui aime rêver.
Un peu beaucoup même.
Oui, plus ou moins, mais bon... En tout cas, c'est eux, hein, le monde utopique, qui veulent se créer. Ils le créent. Quand on rêve, ça devient vrai. C'est un peu une déclaration, mais c'est aussi peut-être une recette, hein, pour les personnes en ce moment. Et il y a juste un petit moment de doute, hein, pour Mireille, mais même avec ce moment de doute qui est un peu poignant, bon... C'est pas du grand mélo, mais enfin, elle est coincée un peu dans ses propres contradictions. Et là encore une fois, parce que c'est souvent le cas, c'est le prêtre, ce fameux prêtre, joué par William Scheller, qui a raison quand il lui dit « l'enfer est dans un cœur vide ». Hein, donc c'est pas Rimbaud, c'est pas Baudelaire, c'est... Il faut aller vers les autres. C'est son mantra à lui. Donc voilà, c'est l'imaginaire et la résistance. C'est l'éternel slogan de la révolution poétique.
Rimbaud, qui est l'enfant du pays, puisqu'il est né à Charleville-Mézières, il y a un grand portrait, quoi. Enfin, qui est très connu, qui est dans sa chambre.
Dans sa chambre de jeune fille.
Oui, de jeune fille, voilà. on comprend.
Oui, on comprend beaucoup de choses. Mais c'est aussi une génération, qui a un peu flirté avec la légalité et qui vieillit. Et là, on voit ce moment-là, cette étape-là. C'est pour ça que c'est peut-être aussi touchant.
Oui, c'est-à-dire que la fin aussi nous emporte, on va dire.
Oui.
Pour pas en dire plus.
Ben, on ne sait pas si c'est pour le bon ou le mauvais, mais oui. Oui. On veut bien continuer.
Mais enfin, la troupe repart, peut-être pour d'autres aventures, on ne sait pas, c'est possible. Oui, voilà.
C'est vrai, tout à fait.
C'est une belle fin.
Ouais.
C'est un beau message.
Oui.
Pour un film poétique plein de sensibilité, donc j'ai l'impression. La fiancée du pote, qui est en ce 20 octobre, au jour d'enregistrement de votre émission Ciné Qua Non, au cinéma Vogue à 7, et Palace Gros du Roi, on espère qu'il sera à Montpellier.
Il est au Diagonal depuis le 11 octobre.
Donc
il sera peut-être après à Utopia, je pense.
Utopia, on croise
les doigts. Oui, aussi. Non, il est au Diagonal, tout à fait.
On va pouvoir le découvrir et aller rigoler, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de scènes de comédie dans ce film.
Ah oui.
Enfin, c'est une comédie romantique un peu, non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'il y a quand même le monsieur qui vient à la fin, qui vient du passé, où ça s'est pas du tout mis en avant.
Si, c'est romantique, je sais pas. Poétique.
Ouais. Comédie poétique, c'est joli. On enregistre le 20 octobre actuellement. Il y aura une diffusion de Ciné Qua Non le 31. Vous nous entendrez, chers auditeurs, chers auditrices.
Est-ce qu'on a le temps d'un coup de cœur ?
Un coup de cœur ?
Oui.
Oui, il reste 3 minutes.
3 minutes, mais ce sera largement suffisant. Ouais. C'est un film qui est sur les écrans depuis le 27 octobre. Ça s'appelle « Le syndrome des amours passés ». Réalisé par Anne Siro et Raphaël Dalboni, qui a été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes cette année. Alors, c'est un film qui est très particulier, puisque qu'est-ce que le syndrome des amours passés ? C'est ce syndrome donc, qui a frappé Sandra et Rémi, qui sont des trentenaires plutôt bobos, on va dire, et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils consultent et ils vont voir un professeur qui leur dit « Écoutez, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Il faut coucher avec chacun de votre côté, avec tous vos anciens partenaires. »
C'est génial.
Voilà. Donc, effectivement, c'est l'histoire.
Ah, il y en a qui ont des idées.
Que va-t-il se passer ?
C'est formidable. Syndrome des amours passés.
Alors, c'est un film qui est très drôle, qui est très amusant, qui est joué par deux acteurs que je ne connaissais pas. Il y a Lucie Debay et Lazare Gousseau. Il y a aussi Florence Lorécaille, qu'on connaît.
Ouais.
Et voilà, c'est une fable, évidemment, qui est faite sur un postulat complètement débile. Nous sommes d'accord. C'est plein d'humour, il y a plein de décalages, il y a des dialogues superbes. Et c'est très, très, très amusant.
À partir du 25 octobre,
je recommande.
Au cinéma, donc, syndrome des amours passés. Ça va donner des idées à certains et à certaines, peut-être.
Il y a des gens qui trouvent des choses inattendues, c'est un fait.
En fiction, ça a l'air drôle, en tout cas, à voir ce que ça donnerait dans la vraie vie, je ne sais pas.
Juste,
il reste du temps, si tu veux.
En attendant le film de Wim Wenders, qui a eu le prix du jury œcuménique Perfect Days, qui doit sortir fin novembre et dont on vous reparlera la prochaine émission, j'espère.
Ah, oui.
Je voulais vous rappeler le coup de cœur que j'avais eu à Cannes pour le documentaire de ce même Wim Wenders sur Anselm Kiefer. Wim Wenders est un documentariste inventif et passionnant. Et l'artiste Anselm Kiefer, qui transforme le poids du passé en beauté ou en choc émotionnel, c'est un vrai témoignage de ce siècle d'après-guerre. Ce sont deux hommes qui sont nés en 1945, donc des enfants de l'après-guerre. Et c'est un très beau film sur l'art. En ce moment, au Diagonal.
Non, le rendez-vous est posé. Merci encore, Claude, Ariel. pour ce Sine Qua Non du mois d'octobre, toujours par l'association Profil. Prochain rendez-vous, c'est dans un mois, précisément, même pas dans deux semaines, précisément, pour celles et ceux qui vont nous entendre dans quelques instants.
On reviendra sur le Cinémed.
Ce
sera le 7 octobre. 7 octobre. 7 novembre, en direct, ce sera le prochain Sine Qua Non. Prochainement. Non, c'est pas le 7 novembre, me dit Stéphane la technique. Le 3 cool. Le 3e, c'est vrai que c'est le 3e mardi du mois en direct. Merci Stéphane, le 21 novembre en direct. Je donne des rendez-vous comme ça. Mais vous entendrez donc la rediffusion de nous-mêmes le 7 novembre, c'est pour ça. Et on pourra effectivement reparler de tous ces films dont on a parlé aujourd'hui. Le procès Goldman, on peut les citer. Les feuilles mortes également, Coup de chance. Et puis La fiancée du poète. On reviendra lors de la prochaine émission sur Cinémed. Bon, quand vous nous écouterez, Cinémed sera déjà fini, ce sera le 31, mais c'est important d'en parler en tout cas.
C'est comme ça, on n'y peut rien.
Ouais. Vous avez un programme Cinémed peut-être, une liste de films que vous voudriez voir, parce qu'il y en a beaucoup, et on en a peut-être une minute pour faire une énumération, si vous voulez
les
regarder. Il y en a 200.
Il y a 200 films.
Voilà. Marathon film. Allons-y.
Ah oui, toute la semaine, là, qu'on pense ce soir, juste toute la semaine.
Ouais.
Toute la journée, les avant-premières, les séances spéciales,
les avant-premières, les longs métrages en compétition, les courts métrages en compétition,
les documentaires en compétition,
des rencontres, un hommage à Ettore Scola avec 22 ou 23 films. Il y a aussi les Bacri, père et fils,
acteurs et réalisateurs.
Israël aux Palestiniens. Il y aura également un clin d'œil avec des rencontres, une rencontre avec le jeune cinéma catalan.
Ouais.
Je ne dis pas espagnol, mais catalan. Ouais, et puis, il y a toujours le cinéma pour enfants. Il y a toujours la nuit de l'horreur. Et puis, aussi également... Des petits hommages, donc notamment un cinéaste disparu trop tôt qui s'appelle Marouk Baghdadi, qui est venu au cinéma il y a quelques années, qui est un cinéaste libanais qui est très intéressant, donc qui fera l'objet donc de 7 ou 8 films. On peut pas tout dire. Il y a aussi Yolande Zoberman qui présentera 4 ou 5 de ses films. Il y aura les Regards d'Occitanie, comme tous les ans, avec des films réalisés dans la région, essentiellement des courts-métrages.
Et on finit par dire au revoir. On finit par dire au revoir. Surtout, on en parlera le 21 novembre en direct, en tout cas, dans votre émission Sine Qua Non par l'association Profil. Merci encore, Ariel Daumont. Merci, Claude Bonnet. À très bientôt.
Merci à toi, Rija.
Bye bye.